en les bouddhas, dharma et sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Il est 7h en Avallon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre de ce soir, qui est consacrée au Vajrayana. Nous avions commencé la semaine dernière une transition du Mahayana au Vajrayana. Aujourd'hui, nous allons commencer une étude, une présentation du Vajrayana fondée sur la voie du Bouddha, le manuel des études de la tradition tibétaine, l'anthologie d'enseignement de Vajradhara Kalmay Mboche. Et nous commencerons donc la troisième section qui s'intitule le Vajrayana, voie de la transmutation. Nous sommes dans la partie concernant la voix. Il y a différentes façons de présenter le cheminement de la voix, mais en trois, on peut parler de trois voies dans lesquelles il y a d'abord la voie de la libération personnelle, qui est fondée sur le développement de la personne authentique, avec la compréhension des bases du dharma, l'attention, la vigilance, la pratique de la pleine présence et la discipline de vie fondée justement sur une attention responsable. Puis il y a la voie universelle qui, sur les bases de la voie de la libération personnelle, amène une dimension d'ouverture altruiste, de bienveillance universelle, avec l'ouverture du cœur-esprit et son entraînement. Dans l'amour, la compassion, l'interdépendance, l'ouverture. La troisième voie, fondée sur les deux premières, est la voie initiatique, qui a pour particularité, dans un contexte de transmission spécifique où une relation personnelle de guidance est importante, de véhiculer des yogas particuliers, des méthodes de réalisation particulières, yoga symbolique, yoga énergétique et les pratiques que l'on connaît sous le nom de Mahamudra et de Dzogchen. Cette voie initiatique est celle du Vajrayana, la voie de la transmutation. En exergue de la troisième section, une citation de Jamgyal Dorje Lodje Taye qui vient d'un résumé qu'il a fait des points essentiels du Vajrayana. Il dit, et nous allons commenter cette citation, « Le Vajrayana est la voie des méthodes multiples et de l'absence de difficultés pour les personnes aux vives facultés dotées d'une grande intelligence. » Tous faits et gestes y concourent au double développement et il n'y a plus la moindre chose qui ne soit utile. Reprenons. Le Vajrayana, alors, Vajra, Yana, Vajra signifie adamanta, signifie indestructible, signifie fulgurant, signifie éclair. Donc, c'est la voie de l'énergie et de sa transmutation. Le Vajrayana est la voie des méthodes multiples. Alors, la première particularité du Vajrayana est de comprendre de multiples méthodes, de multiples yogas, de multiples moyens de réalisation. Dans un raccourci, hein, on peut dire que l'on trouve dans le Vajrayana toutes les méthodes et moyens spirituels qui existent. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faille tous les pratiquer, mais c'est dire qu'il y en a pour tous les goûts, toutes les réceptivités, toutes les sensibilités, toutes les motivations. Et la voie donne des méthodes multiples et de l'absence de difficultés. De l'absence de difficultés parce que dans ces méthodes multiples, chacun peut trouver celle qui lui convient le mieux. Et celle aussi qui l'inspire. Alors, il y a une absence de difficulté parce que on y trouve une pratique adaptée à laquelle on a plaisir à se consacrer, et aussi absence de difficulté parce qu'il n'y a rien à rejeter. Dans d'autres voies, on peut dire qu'il faut rejeter ceci, arrêter cela. Dans le Vajrayana, il y a intégration et transmutation plutôt que rejet. Donc, il y a de ces points de vue une absence de difficulté, une attraction et une absence de rejet et même d'une certaine façon de renoncement qui fait que c'est une voie libre de difficultés. Mais pour les personnes aux vives facultés dotées d'une grande intelligence, pour les personnes aux vives facultés, c'est-à-dire à la réceptivité aiguë, il est nécessaire pour pouvoir entrer et pratiquer convenablement le Vajrayana, entrer dans sa voie et la pratiquer convenablement, il est nécessaire d'avoir une réceptivité vive, qui est cette faculté, réceptivité, et d'être doté d'une grande intelligence, capable d'entrer dans la profondeur de cette voie en lui faisant confiance. Et en le Vajrayana, tout fait et geste concourt au double développement. Donc, dans l'intégration que constituent ces pratiques, l'intégration de la vie quotidienne qui se fait dans ces pratiques, tous les faits et gestes de la vie quotidienne sont consacrés ou deviennent une pratique. Et ainsi, tous les faits et gestes, quels qu'ils soient, familiaux, professionnels, sans exception, concourent au double développement. Alors, double développement, c'est le développement de vertu et le développement de gnose, qui vous sont familiers, je pense, qui résume tout le développement de la voie avec les vertus et l'expérience première, l'intelligence immédiate que l'on nomme la gnose. Tout fait et geste, il concourt au double développement, et il n'y a plus la moindre chose qui ne soit utile. Tout est utile et tout devient support pour le cheminement intégré dans la voie. Même les passions, même les éléments que l'on aurait tendance à considérer a priori comme négatifs, sont utiles et sont une matière première pour la pratique. Donc, voilà cet exergue. Nous reviendrons sur différents de ces points. Vajradhara Kaloimbochi nous dit: ce que nous avons vu jusqu'ici à propos du Hinayana et du Mahayana appartient à toutes les écoles du bouddhisme. C'est le dharma fondamental. Alors, Hinayana et Mahayana sont la voie de la libération personnelle et la voie universelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le dharma fondamental, les bases, les fondements. Concernant la spécificité du Vajrayana, le Vajrayana repose sur les mêmes fondements que le Mahayana, dont il est une branche. Dans le Mahayana, on distingue ce que l'on nomme le Paramitayana et le Tantrayana. Paramitayana ou Sutrayana et la voie des sutras basée sur Bodhicitta et la pratique des six paramitas, les six vertus fondamentales. Et Tantrayana est la voie des tantras, c'est le Vajrayana proprement dit, qui est fondée sur la pratique des tantras et les différentes méthodes de ceux-ci. Mais le Vajrayana est donc, avec le Paramitayana, une des deux branches du Mahayana. Et le Paramitayana est aussi la base du Tantrayana. Donc ils ont les mêmes fondements, mais le Vajrayana se distingue de ses enseignements ordinaires, des enseignements ordinaires du Mahayana, par les nombreux moyens adroits qu'il utilise. Tout à l'heure, nous avons parlé des méthodes multiples. Ces méthodes multiples sont des moyens adroits de réalisation, des moyens de réalisation et adroits parce qu'ils savent, ils amènent à la réalisation, comme nous le disions, sans difficulté. Les enseignements du Mahayana ordinaire s'appuient sur les sutras. Ceux du Vajrayana sont fondés sur les textes particuliers appelés tantras. Les buts de leurs enseignements sont identiques, mais leurs perspectives, leurs moyens de progression et leur efficacité diffèrent. Là, il y a dans le Vajrayana une perspective particulière qui est celle de la plénitude de la vacuité, qui est celle de la transmutation. Il y a dans le Vajrayana des moyens de progression, de pratique particulier. C'est yoga, symbolique, énergétique, mahamudra, dzogchen. Et il y a aussi une efficacité particulière au sens où le Vajrayana est une voie extrêmement efficace, on dit un raccourci vers l'éveil, une voie rapide. C'est en ce sens qu'elle est aussi en rapport avec l'éclair et sa fulgurance. Précédemment, nous avons parlé de la complémentarité des trois véhicules, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Maintenant, nous allons voir que chaque véhicule a une perspective et une approche qui lui sont spécifiques. Il y a dans les approches des différents véhicules des motivations variées. Les tenants du Hinayana considèrent le samsara comme un océan de souffrance qui est à franchir pour atteindre la liberté du nirvana. Et ils cherchent à s'en libérer principalement pour leur propre bien. Donc cette motivation du Hinayana. Les tenants du Mahayana aspirent à la libération afin d'aider tous les vivants, considérant qu'ils ont tous été, à un moment donné, au cours de leurs innombrables existences, leurs propres parents. Ils se rappellent de leur bonté et, avec un sentiment de compassion universelle, souhaitent les libérer tous. Cette motivation, bodhicitta, la motivation du Mahayana. Ainsi, les pratiquants Hinayana ont été comparés à des rois utilisant leur pouvoir à leur propre profit, et ceux du Mahayana à ces mêmes rois les utilisant au profit de tous. L'altruisme, la bonté, la bienveillance universelle du Mahayana. Les perspectives diffèrent également au regard, par exemple, des illusions et de leurs conséquences. La voie Hinayana enseigne le renoncement aux impuretés, ce qui est difficile et très long à réaliser, mais plus facile à enseigner que l'approche Mahayana ou Vajrayana. La voie Mahayana propose de changer les souillures en qualités qui leur sont opposées, ce qui est plus difficile à comprendre que ce que propose le Hinayana, mais plus facile à pratiquer une fois la méthode assimilée. Quant à la voie du Vajrayana, elle consiste à transcender le pur et l'impur, ce qui est très difficile à comprendre et à enseigner, mais une fois maîtrisé, c'est le moyen le plus rapide et le plus facile pour atteindre l'éveil. Les Troyanas utilisent aussi différentes sortes de moyens de progression, plus ou moins radicaux. On pourrait comparer leur méthode à trois manières de se débarrasser de l'arbre de l'ignorance, de la souffrance et des négativités. La pratique du Hinayana arrache les feuilles. Celle du Mahayana coupe les branches. Quant au Vajrayana, il tranche l'arbre à la racine. Toutes les souffrances étant dans l'esprit, réaliser directement sa nature et éliminer ainsi toutes les illusions qu'il génère est l'approche Vajrayana. Prenons un autre exemple. Si nous comparions l'éveil à l'image d'un Bouddha, pour obtenir cette image, nous pourrions la peindre sur une toile, dessinant d'abord ses contours et ses détails, puis y appliquer minutieusement les couleurs, attentifs aux nuances et aux ombres. C'est ce que font des peintres de Tanka. Le résultat souhaité serait atteint, mais cela demanderait beaucoup de temps. C'est un peu comme la voie des sutras. L'autre méthode consiste à emprunter une bonne peinture traditionnelle et à la prendre en photographie. Le résultat est immédiat, c'est la voie des tantras du Vajrayana. Les trois véhicules ne diffèrent pas tant par leur but, qui est le même pour tous, que par les méthodes pour y arriver. Si l'éveil était une contrée lointaine comme l'Inde, l'approche Hinayana serait comme de cheminer vers elle à pied. Celle du Mahayana comme de s'y rendre à cheval ou en voiture, et finalement celle du Vajrayana comme d'emprunter un avion ou une fusée. Il n'y a pas plusieurs destinations, mais la rapidité et l'efficacité des véhicules sont très inégales. La voie du Hinayana et du Mahayana se pratique sur de nombreuses vies. Le Vajrayana est plus rapide. Il permet de réaliser l'éveil soit dans cette vie, soit au moment de la mort, soit en l'espace de 7 ou 16 vies au maximum. C'est un moyen de progression rapide, mais qui peut en même temps être dangereux si vous n'avez pas une grande confiance en votre guide. Donc voilà pour le début de cette présentation. Je vous invite à un moment de contemplation. Un simple moment d'ouverture dans l'éveil des sens. Relaxé dans l'ouvert. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, que tout soit propice et à bientôt.